Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Vous souvenez-vous du film américain sorti en 1968, 2001, L'Odyssée de l'espace, du réalisateur Stanley Kubrick. Il y a dans ce film beaucoup de symboles métaphysiques sur l'existence, sur la condition humaine, et à la fin, les spectateurs sont plongés dans le mystère, dans la perplexité, et je l'étais moi-même à l'époque quand j'ai vu le film. Rappelez-vous, à la fin du film, l'astronaute Dave Bowman se retrouve plongé dans une vision de lui-même. Il se voit lui-même seul dans une pièce blanche. Il se voit vivre, passer du temps. Il passe par plusieurs phases de vieillissement jusqu'à ce qu'il devienne un vieillard dans son lit. Et l'homme alité lève faiblement le doigt et à la rencontre d'un énorme bloc de marbre noir appelé le monolithe dans le film. Le contact avec ce monolithe enclenche sa transformation finale et Bowman se retrouve transformé en un enfant de lumière, appelé dans le roman du livre éponyme, 2001, l'Odyssée de l'espace, écrit par Arthur Clarke, cet enfant est appelé l'enfant des étoiles. Donc l'idée du romancier Arthur Clarke était de suggérer que l'humanité allait un jour connaître une phase de transformation, une progression vers une nouvelle forme d'existence, une existence transcendante, une existence cosmique à l'échelle de l'univers. Autrement dit, une élévation de son être au-delà du simple physique. Il est difficile pour le chrétien de ne pas imaginer et de ne pas comprendre, de ne pas voir le parallèle entre cette image du film et le plan de salut de Dieu. Effectivement, à la fin du film, ce vieil homme transformé en un nouveau-né illustre cette image, en quelque sorte, et elle nous fait penser à la déclaration surprenante de Jésus-Christ à Nicodème. Jésus-Christ dit à Nicodème, docteur d'Israël, ce qu'il doit entendre au sujet de la nouvelle naissance de chaque être humain dans le royaume de Dieu. Alors reportons-nous-y un instant dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 3. C'est Jean, chapitre 3, verset 3. C'est une déclaration extrêmement importante car elle nous met ici en contact avec le plan de Dieu. Jésus lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et là, Nicodème va être bouleversé, il ne comprend pas ce que Jésus est en train de lui dire. Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Évidemment, Nicodème pensait à la naissance physique, qu'est-ce qu'il voulait dire? Jésus répondit, « en vérité, autrement dit, amen, amen, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il continue en expliquant, verset 6, « ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc il dit ensuite, « il faut que vous naissiez de nouveau. » Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, « il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Il continue d'être quelque peu étonné par les paroles de Jésus. En effet, Jésus lui répondit, « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Alors là, évidemment, Nicodème était gentiment défié par Jésus-Christ qui lui exposait la vérité. Et une vérité que Nicodème avait du mal à voir, avait du mal à imaginer. Nicodème ne voyait pas encore le potentiel incroyable, absolument incroyable de l'être humain, quel qu'il soit, homme, femme, enfant, ayant vécu de tout temps, devenir un jour un enfant de lumière dès son entrée dans le royaume de Dieu. Dans son film, Stanley Kubrick a essayé de montrer effectivement quelque chose de similaire, c'est évident. Bien qu'il ne parlait pas de Dieu, il ne parlait pas d'autre chose que d'une sorte de sursaut évolutif de l'humanité. Ce qui, nous le savons, n'est qu'une illusion. Cela ne correspond pas, cela n'a pas de fondement réel. Jésus a parlé, lui, et il le dit deux fois, de la vérité, en vérité, en vérité, je te le dis. Deux fois de suite. Et il dit à chaque fois, il utilise l'adverbe hébreu « amen », qui veut dire, donc, qui signifie, voilà, faites attention, ce que je vous dis est fondamental. Il y a un fondement, une fondation. Toute autre tentative d'explication, en d'autres termes, ou d'imagination, est tout simplement un mensonge. Nicodème aurait bien voulu avoir cette vision, mais il avait là les paroles de Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Et nous aussi, nous avons ces paroles. Nous avons les paroles de vérité. Nous voulons avoir cette vision. Et cette vision nous est révélée. Si nous sommes chrétiens, convertis, si nous sommes des adultes baptisés d'eau, donc immergés dans l'eau, et ayant reçu par l'intermédiaire du véritable ministère ordonné par Jésus, ayant reçu, ayant été récipiendaire du véritable Esprit de Dieu, que Dieu a daigné nous donner, après l'imposition des mains réalisée par les ministres, nous pouvons avoir cette vision imprimée dans nos cœurs. C'est le don du Saint-Esprit. C'est la manifestation de l'appel de Dieu. En toute sincérité, autrement dit, nous savons en nous-mêmes que toutes ces choses vont prendre place. Elles prennent place, elles vont prendre place. Jésus va revenir sur terre. Et en nous, il n'y a pas le moindre doute à ce sujet. Pas le moindre doute. Alors avez-vous ce sens de la vision du royaume en vous? Est-ce que j'ai ce sens de la vision du royaume en moi? Posons-nous la question. Soyons sincères. Avez-vous déjà vu un spectacle qui vous a littéralement coupé le souffle? Ne serait-ce qu'en regardant la nature. Un magnifique coucher de soleil, quelque chose d'impressionnant, une éclipse du soleil, peut-être en avez-vous vécu, j'en ai vécu une l'année dernière, ici dans le Texas, une éclipse de soleil totalement occultée par la lune. Si vous avez pris l'avion entre les États-Unis et l'Europe, ou entre le continent américain et le continent européen, peut-être avez-vous survolé le Groenland. Peut-être en allant en Afrique, avez-vous survolé l'étendue du Sahara. Ce contact avec l'immensité, c'est quelque chose que la grande majorité des êtres humains, tout au long de l'histoire, a pu effectivement faire d'une façon ou d'une autre. Les uns dans les déserts, les autres sur la mer, de tout temps, à toutes époques, c'était possible. Certains, très rares, ont pu même contempler la Terre depuis l'espace. De ce tout petit club d'astronautes, de cosmonautes, de spationautes qui ont pu le faire. Et nous voyons les images, bien sûr, de ce qu'ils ont vu, mais eux ont eu cette expérience. Ils ont véritablement capté toute l'émotion de cette vision particulière. Ils étaient sur les lieux, ils étaient présents, ils étaient là. Le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, Buzz Aldrin, a parlé d'une désolation magnifique quand il a vu le sol lunaire, quand il a vu ce qu'il y avait autour de lui. Il a dit « Ce que je regarde n'a pas changé depuis des centaines de milliers d'années. » Il était sous le choc. Et les hommes qui ont foulé le sol lunaire ont reçu en eux, plus ou moins fort, effectivement, ce choc de l'immensité. Je me souviens encore de ma première vision toute simple de l'océan Atlantique. J'avais 7 ans à l'époque et nous allions en vacances en Vendée, dans la voiture de mon père. Mon père conduisait la voiture et tous, au moment de voir pour la première fois l'océan avec l'une de mes deux sœurs, nous avons dit « Regarde, c'est la mer là !» Et quelle merveille pour nous de la voir, de voir cette immensité pour la première fois dans notre enfance, pour nous qui étions de simples terriens du Bourbonnais. Nous ne l'avions jamais vu. Et lorsque nous sommes sortis de la voiture, nous avons eu ce premier parfum de l'océan, inoubliable. Et la Terre vue de l'espace. Lorsque les Russes ont préparé l'envoi du cosmonaute Youri Gagarin, le premier homme à être mis sur orbite, dans Vostok 1, il n'imaginait probablement pas l'effet que cette expérience aurait sur lui. Il a écrit ceci, Youri Gagarin. « J'ai vu combien notre planète est belle. Préservons et augmentons cette beauté, ne la détruisons pas. » Nous étions en 1961, rappelez-vous, c'était le moment où de la guerre froide, avec la menace d'une destruction nucléaire de la planète. Son voyage dans l'espace a changé sa vision de la Terre. Lui, simple officier subalterne dans l'armée de l'air soviétique. Le spationaute Jean-Loup Chrétien, le premier Français, premier Européen occidental aussi, a été sorti dans l'espace le 9 décembre 1988. Il a franchi le sas de la station russe Mir et il s'est retrouvé face à un spectacle incroyable des milliards et des milliards d'étoiles. Et il a dit ceci, « Une fois que nous avons franchi la porte circulaire du sas de la station, nous sommes entrés dans un monde céleste où des milliards d'étoiles vous tendent les bras. C'était un moment très intense, dit-il, plus que depuis le hublot de la station qui n'offre pas de vue panoramique. Il avait une vision panoramique. J'y repense encore aujourd'hui, dit-il, lorsque je regarde un beau ciel d'été. Il doit avoir 83 ans, je crois, en ce moment. Et il fallait bien un Français pour écrire cela. Vraiment, c'est magnifique. Lorsque l'Américain Frank Borman, le commandant de la mission Apollo 8, a vu la Terre 20 ans plus tôt, il s'est exclamé « Quelle vue ! Quelle vue ! C'est sûrement ce que Dieu voit !» Il voyait la Terre. C'était la première fois que des humains voyaient la Terre une fois éloignée de l'orbite terrestre, donc vers la Lune. Et depuis des centaines de volontaires sélectionnés ont fait cette expérience, mais quand même, un tout petit club. Le phénomène qu'ils ressentent après une sortie dans l'espace est un changement intense de perspective, de leur façon de penser. Ils appellent cela, dans leur métier, l'effet de survol. L'effet de survol. Cela décrit une modification de leur perception du monde. Et cet effet est d'autant plus fort qu'ils s'éloignent de la Terre. Plus ils s'éloignent, plus l'effet de survol est intense. Alors, on pourrait croire à tort que ceux qui sont allés dans l'espace se sentiraient de plus en plus insignifiants, petits, face à l'immensité de l'univers. C'est vrai, quelque part. Mais, pourtant, de façon assez inattendue, ils en sont revenus avec un sentiment plus profond et bien différent, bien plus intense. Quelque chose, dirons-nous, de chevaleresque, à la fois à travers la grandeur et l'humilité combinées ensemble, la grandeur et l'humilité. Le sentiment qu'ils ont un plus grand rôle, le sentiment qu'ils se sentent partie prenante de quelque chose qui est bien plus grand qu'eux-mêmes. C'est un sentiment unique. Que peut apprendre un chrétien de cet effet de survol? Alors, nous n'allons pas aller dans l'espace, bien sûr. Je ne crois pas. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui, chrétien, va aller dans l'espace et qui comprend, comme nous, le plan de Dieu, faites-moi signe. Mais la connaissance du plan de Dieu, la connaissance du plan de Dieu est bien plus vaste que l'immensité de l'espace. Ne devrait-elle pas, à plus forte raison, changer notre vision, notre perspective de la vie? En somme, pour les chrétiens, y a-t-il un effet de survol spirituel? Ce qui est frappant dans cet effet de survol vécu par les astronautes, cosmonautes, spationautes, on les appelle les conquérants de l'espace, c'est que presque tout cet effet a transité par le biais de leur nerf optique, par les yeux. L'effet d'apesanteur, les bruits de respiration et de communication radio au sein de la combinaison spatiale, finalement, ce ne sont que des distractions par rapport à la vision, à ce qu'ils ont pu voir. Vraiment. Pour la première fois, ils ont littéralement vu la Terre sous un angle complètement différents. Et c'est ce qui a modifié leur façon de penser. Alors, en parallèle, de même, pour le chrétien, la vision spirituelle de la perspective panoramique du plan de Dieu est absolument indispensable. Tout particulièrement, vous savez, dans ces moments individuels, réguliers, où nous devons changer notre perspective. Nous devons regarder en nous qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et je voudrais en parler plus précisément en faisant allusion à Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18 nous dit ceci. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » La version second 21, et là je venais de lire dans la version de la nouvelle édition de Genève, la version de second 21 dit « Le peuple ne connaît aucune retenue. » Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de retenue. L'Ancien Testament Samuel Cahen dit « Sans inspection, le peuple devient effréné. » Une sorte de folie, une sorte de... Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de retenue. N'est-ce pas ce que nous voyons en ce moment? Et la Bible Crampon dit « Quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Heureux qui observe la loi. » La loi agit comme un garde-fou. Elle nous empêche d'aller trop loin dans ce que nous faisons et de rester dans un espace de sécurité. Parce qu'au-delà de la barrière, au-delà de la limite, eh bien c'est le précipice. C'est tentant de vouloir aller au bord du précipice pour regarder ce qu'il y a. Or la loi agit comme une barrière qui nous rappelle que si nous allons au-delà de cette barrière, c'est la mort, assurée. Notre examen personnel tout au long de l'année, et notamment plus intensément avant la Pâque, nous permet d'avoir des révélations sur nous-mêmes. Elle nous permet d'avoir justement une sorte de revue, d'inspection de nous-mêmes, des visions de nous-mêmes. Et donc nous faisons, dans cet examen de conscience, nous faisons l'état des lieux de notre cœur. Si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, si nous n'avons pas la connaissance de son plan, nous ne saurions pas faire cet examen de conscience correctement. Et malheureusement, nous le voyons aujourd'hui dans la société, les gens sont, la plupart du temps, laissés sans but. Ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de cap, et spécialement la jeunesse. Ils n'ont pas de boussole spirituelle pour pouvoir se diriger correctement. Notre jeunesse a besoin d'une boussole spirituelle. Nous avons besoin de faire notre examen de conscience tous les ans selon les standards de Dieu. Et même plus que tous les ans, nous devons le faire de façon régulière. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que cela plaît à Dieu? Nous savons très bien que la plupart du temps, nous pouvons trouver certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu et que nous devons donc changer, que nous pouvons changer. Ce proverbe, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein, heureux qui observe la loi, ce proverbe nous montre que nous avons besoin d'une vision panoramique, d'une vision d'ensemble de la vie. Je le disais, nombreux, très nombreux même, sont ceux qui, dans le monde aujourd'hui, ont du mal à voir les choses telles qu'elles sont dans leur vie. Comment est-ce que je suis vis-à-vis des autres? Alors évidemment, ces standards peuvent finalement nous convenir, mais est-ce qu'elles conviennent à Dieu? C'est cela la question véritable pour le chrétien. Et quand les personnes ont du mal à voir, quand ils n'ont pas de vision, eh bien, conséquence, le mal empire. Il empire dans la société, il empire en eux. Les frustrations, la dépression, les maladies, et même, parfois, malheureusement, le suicide. Donc, sans vision, il est dit, les gens périssent. Et à juste titre, c'est ce qui arrive. Il y a un dépérissement. Il y a un cheminement morbide vers la mort. Et donc, de ces choses, Dieu veut nous délivrer. Il veut nous avertir. Il veut que nous changions. Et c'est possible. Il nous invite à ce changement. Il y a ce remède, effectivement, plus puissant que tous les autres, sur le plan psychique, ce remède, c'est la vision que lui, Dieu, propose dans sa parole. une vision sans voile de ce que nous sommes, honnête, difficile parfois à voir. Nous nous voyons tels que Dieu nous voit, et c'est dur. La réalité est dure. Nous sommes pécheurs. Nous sommes petits, misérables, pauvres, aveugles et nus. Nous avons besoin de changer. Il nous faut changer. C'est possible. Dieu nous y invite, et nous devons le faire sans plus attendre. Il est intéressant de noter que le mot hébreu, traduit par « vision », désigne en réalité la révélation de Dieu, précisément. C'est une révélation. Dieu nous voit et il nous révèle ce que nous sommes. Quand Dieu nous parle et que nous comprenons qu'il le fait dans notre intérêt, c'est là que la véritable vision spirituelle prend place. Et elle se fait jour dans la lecture de sa parole, précisément la Bible. C'est grâce à la Bible, c'est notre encre, c'est notre mode d'emploi de la vie, en quelque sorte. Il y a ce que Dieu désire que nous sachions. Et c'est la raison pour laquelle, sans la connaissance de Dieu, sans la connaissance de son plan, les êtres humains sont laissés, malheureusement, sans but, sans direction. En revanche, ceux qui ont cette vision divine, grâce à la parole de Dieu, eh bien, ils obéissent à la voix divine. Ils obéissent à la loi divine. Ils sont guidés dans leur vie. Ils ont ce guide. Ils ont ce mode d'emploi, cette lampe allumée qui les éclaire sur leur sentier de vie. Ils comprennent le but pour lequel Dieu les a créés. Le but pour lequel Dieu les a créés. Ils s'efforcent, elles s'efforcent de vivre selon ses lois. Le roi David est un excellent exemple d'un homme visionnaire. Son épouse, Abigaïl, est un modèle de vertu, un modèle d'intelligence, de discrétion, de puissance féminine, qui pourrait inspirer beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de femmes politiques aujourd'hui, tout spécialement dans les deux extrêmes de l'échiquier politique. Je devrais même dire dans les trois extrêmes, puisqu'il y en a un au milieu. Je parlais tout à l'heure des milliards d'étoiles que le spationaute français Jean-Loup Chrétien a pu voir à l'ouverture du sas de la station Mir, il y a un peu moins de 40 ans. Eh bien, bien avant, 3000 ans auparavant, il y avait dans les champs un jeune berger en Israël qui contemplait lui aussi la voûte céleste. Il contemplait les cieux purs et magnifiques, et les mots auxquels il pensait, il les a couchés par écrit, et nous les avons aujourd'hui. Il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Selon Psaume, chapitre 19, le psaume 19 et le verset 2. Alors aujourd'hui, non pas comme David à l'époque, nous disposons de puissants outils scientifiques ou techniques, de puissants télescopes qui nous permettent de voir bien au-delà de ce que David pouvait voir à l'œil nu. Mais si David a vu déjà, lui, la gloire et l'œuvre de Dieu dans l'immensité de l'espace, et probablement dans un espace beaucoup plus pur que ce que nous pouvons voir maintenant, une vision certainement plus claire, à plus forte raison, devrions-nous voir, nous, cette connaissance supplémentaire. Et dans le même psaume, David poursuit en disant ceci, « Un jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne puisse pas être entendu, est-il dit, versets 3 et 4. En d'autres termes, l'immensité du ciel, sans langage, sans parole, recèle déjà un puissant message en elle, et par la vision, nous voyons la grandeur de Dieu. Nous percevons la grandeur de cet immense environnement. Nous comprenons qu'il a été créé par un Dieu encore plus grand que toutes ces choses. Les astrophysiciens qui étudient les origines de l'univers ont découvert que celui-ci n'est pas éternel dans le passé. Il y a eu un moment où tout a commencé. Il y a eu un commencement, une naissance à partir de rien. Et bien que la plupart des scientifiques refusent de l'admettre, pas tous, loin de là, c'est de toute évidence un puissant témoignage de l'existence d'un Créateur suprême. Ils savent très bien que si la Terre était, ne serait-ce que légèrement plus proche du Soleil, les conditions de vie seraient totalement différentes. Il ferait beaucoup trop chaud. L'eau finirait par s'évaporer. En revanche, si la Terre était un peu plus éloignée que son orbite normale autour du Soleil, eh bien, elle gèlerait. Elle finirait par geler. Les hivers seraient intenables pour les populations humaines et animales. La cohérence infinitésimale des lois physiques qui régissent l'univers, la cohésion dans les atomes, la cohésion dans la matière, toutes ces choses devraient nous prouver que, oui, c'est un ingénieur suprême qui a conçu cela, un ingénieur d'une puissance inimaginable. Ces choses ne se sont pas produites spontanément. Elles ne sont pas non plus le fruit du hasard. Comment pourraient-elles être le fruit du hasard? Avec cette compréhension statistique, les paroles que nous pouvons lire de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains prennent toute leur importance et toute leur consistance. Il écrit aux Romains: En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et il ajoute, il dit, à l'égard de ceux qui refusent l'existence de Dieu, il leur dit, ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'excuse. C'est plutôt, je dirais, l'expression d'un désir de ne pas vouloir regarder la vérité. Dieu ne s'est pas contenté de mettre en place les lois de l'univers physique et leurs bienfaits pour nous. Il a aussi institué des lois qui régissent la vie humaine, des lois vivantes, des lois qui nous protègent, qui nous aident à vivre ensemble, heureux, productifs, et qui nous aident à éviter toutes sortes de pièges, toutes sortes de problèmes. Les cieux proclament la puissance et la majesté de Dieu. Nos paroles humaines ne peuvent pas produire grand-chose. Nous ne pouvons rien créer, ne serait-ce que simplement à partir de la parole, notre parole à nous. Nos mots, une fois prononcés, resteraient lettres mortes si nous n'ajoutons pas le geste à la parole. Or, non seulement Dieu peut créer des choses, ne serait-ce que par sa parole, mais il a fait ces choses à partir du néant. Il n'y avait rien et il a créé la matière physique. Dans Psaume chapitre 33, 33e psaume, verset 6, il est écrit: Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Seul Dieu peut faire ces choses. Notre esprit, à nous, notre esprit humain, ne peut même pas imaginer comment Dieu peut arriver à faire ces choses. Peut créer quelque chose à partir de rien. Mais il est vraiment infiniment puissant, et en particulier au point que je viens de décrire. Il crée la Terre, il a créé la Terre, il a créé la Lune, le Soleil, les planètes du système solaire, les étoiles, la Voie lactée, les milliards de galaxies qui parsèment l'univers à des distances inimaginables. Dieu a fait toutes ces choses. Il a créé l'univers tout entier, à partir de rien, et au moyen de sa parole. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Considérez un seul instant la puissance du Soleil, cette énorme étoile à côté de laquelle la Terre est toute petite. En une seule seconde, le Soleil génère, écoutez bien, 400 000 milliards de watts. C'est une énergie qui, un volume d'énergie qui pourrait alimenter la population mondiale pendant 500 000 ans. C'est phénoménal. En une seule seconde, toute cette énergie pourrait alimenter la population mondiale pendant une éternité. Et le Soleil n'est finalement dans l'univers qu'une toute petite étoile, disons une étoile moyenne, mais enfin, il y a des échelles de comparaison qui nous montrent qu'elle est toute petite, beaucoup plus petite, beaucoup plus petite que l'étoile supergéante rouge appelée VY Canis Majoris dans la constellation du Grand Chien. Figurez-vous que la taille de cette supergéante rouge est 13 fois la distance entre le soleil et la terre. Ce sont des choses, des chiffres qui dépassent totalement l'imagination humaine. Il est difficile d'imaginer ces choses. On peut les quantifier dans ce cas précis, mais très franchement, c'est absolument quelque chose qui nous submerge. Sans parler du nombre d'étoiles dans l'univers. Et sans mentionner toutes les planètes qui gravitent autour des étoiles, combien y a-t-il d'étoiles dans l'univers? Bonne question. Alors la dernière estimation, c'est une estimation bien entendu, du nombre d'étoiles serait de 1 septillion, c'est-à-dire un 1 suivi de 24 zéros. Encore une fois, là c'est complètement... Nous sommes submergés par... Nous pouvons éventuellement, jusqu'à un certain point, quantifier, mais de toute façon, il semble que ce chiffre soit encore largement sous-estimé par rapport à la réalité. Lisons ce que nous dit à ce sujet précisément le psaume 147. Psaume 147, verset 4, la grande signification qui, effectivement, glorifie la personnalité de Dieu. Il nous dit que Dieu connaît toutes les étoiles par leur nom. Et nous venons de dire qu'il y en a au minimum un septillion, un 1 suivi de 24 zéros. C'est hallucinant. Dieu connaît toutes les étoiles par leur nom, toutes. Elles ont toutes un nom. Mais avec quelle langue? Quelle est la langue de Dieu? Combien de lettres et combien de voyelles y a-t-il dans l'alphabet de la langue de Dieu? Quelle est la longueur de chaque nom, de chaque étoile? Ce nom porte-t-il pour chacune le début de toute une histoire? Autant de questions qui, bien entendu, n'ont aucune réponse pour le moment. Et nous n'aurons pas de réponse avant un certain temps. Mais nous aurons un jour cette réponse. Pour le moment, notre esprit humain est totalement incapable de saisir l'ampleur, de saisir l'impact de nombres aussi grands. Mais comme les grains de sable de la mer, il est impossible de les compter. Or, il nous est dit, son intelligence, l'intelligence de Dieu, est infinie, au verset 5. Vraiment, nous voyons que les cieux proclament la gloire de Dieu. Une chose est sûre, en revanche, à notre niveau personnel, le fait de comprendre l'immensité de la création, ce qu'elle révèle, en quoi elle révèle la grandeur de Dieu, cela devrait avoir un impact significatif dans notre niveau de vie spirituelle, et notamment dans notre relation avec lui. Car nous pouvons avoir une relation avec ce Dieu merveilleux. Oui, malgré notre petitesse, malgré sa grandeur incommensurable, son pouvoir et sa puissance, nous pouvons avoir cette relation individuelle avec lui. Et il désire avoir cette relation avec chacun d'entre nous. C'est possible. Il veut nous entendre lui parler. Chaque matin, si possible, et au cours de la journée, dans nos pensées, dans notre recours auprès de lui, dans tout ce que nous devons et voulons et désirons lui dire, eh bien, nous pouvons bâtir, construire cette relation avec lui. Il nous répond avec grâce. Nous voyons les bienfaits de ses réponses dans nos vies, dans les petits besoins, dans les grands besoins. Ces choses sont là. Et il est notre Père. Il se déclare Abba, Père, Papa. C'est ainsi qu'il se révèle à nous. Il pourrait se révéler comme le roi puissant de gloire, le souverain, etc. Ce qui apparaît, il est vrai dans la Bible, mais il veut en priorité que nous le considérions comme notre Père céleste. C'est merveilleux. Cela inaugure la relation que nous pouvons avoir avec lui et à laquelle Jésus nous a invités. C'est ainsi qu'il se révèle à nous, comme avec un enfant, un père et un enfant. Il est un père plein d'amour, l'amour de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous avons perdu un papa, nous avons perdu une maman. Eh bien, vous reverrez votre papa, vous reverrez votre maman un jour. Et c'est merveilleux de le savoir. Mais lui, il est notre papa suprême. Et Vous savez, Dieu est finalement extrêmement chaleureux. Il est plein d'amour, il est là, autour de nous. Il est plein de pardon, plein de miséricorde. Il est prêt à entendre comme nous sommes effondrés d'avoir été méchants, d'avoir eu telle ou telle réaction. Nous n'aurions pas dû faire ces choses. Nous sommes pécheurs. Donc dans notre vie, des choses vont intervenir que nous n'aurions pas dû faire. Des pensées que nous n'aurions pas dû avoir. Dieu est là il attend, et nous sommes heureux de pouvoir lui dire « Je suis vraiment désolé, pardonne-moi, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Nous pouvons dire ces choses, et nous verrons la différence. Dieu nous délivre du mal, il nous donne un bouclier de foi qui éteint les traits enflammés de l'adversaire. C'est écrit dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 6. Dieu a horreur du mensonge. Il est droit. Il aime la vérité. Il veut entendre la vérité. Il dit la vérité. Il est patient. Il est miséricordieux. Il est généreux. Alors ceux qui ont l'audace, effectivement, de l'incriminer pour les malheurs de l'humanité, ils sont légions. On entend cela à longueur d'années. La religion serait, soi-disant, la cause de tous les malheurs. Certainement pas la religion de Dieu. Il y a beaucoup de religions sur terre. Mais la seule vraie religion, n'est-ce pas la religion de Dieu? Pensons-y. Quelle est la religion de Dieu? Qu'est-ce que Dieu demande? Quelle est la vraie fondation de la religion de Dieu? Nous devons répondre à ces questions. Est-ce que c'est la Bible? Qu'en pensons-nous? Avons-nous réglé cette question? Est-elle un fondement solide en nous? Nous devons le prouver. Et nous devons prouver que le reste est en fait un mensonge. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Colossiens, le plan magistral de Dieu a été mis au point dès avant la fondation du monde, dès avant les fondations des univers visibles et invisibles. Un plan qui verra son accomplissement un jour, qui n'est plus si éloigné maintenant de cela, d'aujourd'hui. Dieu répond aux besoins de ses enfants aujourd'hui, comme il l'a toujours fait, pour peu que nous lui demandions humblement son intervention, de bien vouloir intervenir dans nos petites vies individuelles, nos petits besoins, nos grands besoins, dans la vie de nos proches aussi, dans la vie des dirigeants de notre pays. Dieu prend toutes ses demandes au sérieux et sa façon de répondre est la sienne. Il répond à sa façon. Il écoute attentivement nos demandes. Il en tient compte. Et il répond avec sagesse, avec amour, pour nous éduquer, pour nous élever. Le but final, il l'a en tête. Parfois, nous l'oublions. Il veut que nous soyons dans sa famille. Cela va passer par un certain nombre de tests, d'épreuves et finalement une éducation, une élévation. Les réponses de Dieu peuvent être immédiates dans nos prières, après nos prières, ou elles peuvent être manifestées après un délai plus ou moins long, mais Dieu sait quand et comment il répondra à nos prières. En regardant l'univers, on peut se sentir effectivement tout petit, insignifiant. Mais ce n'est pas nécessairement la seule chose que Dieu veut que nous ressentions lorsque nous contemplons sa création. Oui, il veut bien sûr que nous comprenions que nous ne sommes que poussière, il le dit dans sa parole. Mais il veut aussi que nous apprenions à développer l'humilité, que nous comprenions ce que nous sommes et que nous soyons conscients de la puissance de Dieu à côté de tout cela, de son amour et par conséquent de la nature du respect et de la haute considération, le mot est faible d'ailleurs, que nous devrions lui rendre, notre adoration, l'adoration qui lui est due. Il veut que nous comprenions le but pour lequel il nous a créés, la finalité de tout ce processus extraordinaire, sublime de la création de la famille de Dieu. Une fois que nous réalisons, nous commençons à comprendre ces choses, c'est alors que, eh bien, nous sortons de notre petitesse, nous sortons de notre insignifiance. Ah, enfin, finalement, oui, les choses sont plus grandes que nous-mêmes, mais nous avons quand même une importance dans tout cela. Ce que Dieu fait à travers nous est formidable, c'est magnifique. Dieu accomplit dans nos vies quelque chose de bien plus grand que ce que nous pourrions espérer produire nous-mêmes avec nos petits moyens. Le roi David avait compris cela, il le savait. Et lorsqu'il contemplait le ciel, lorsqu'il admirait l'œuvre de Dieu, il se demandait pourquoi un Dieu aussi grand et aussi puissant pourrait prendre le temps de penser à lui, de penser à nous, les petits êtres humains. Allons dans le psaume 8 pour lire ces paroles magnifiques de David, inspirées par Dieu. Inspirées par Dieu. Psaume, le 8e psaume, psaume 8. Et allons à partir du verset 4, où David dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Nous ne sommes que des petites fourmis, des petits insectes, quelque part, une échelle de comparaison. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toute la création de Dieu est destinée à guider notre esprit vers Dieu. Mais ici, nous voyons que l'Esprit de Dieu est également tourné, lui aussi, vers nous. Dieu se tourne vers nous. Et c'est de là que vient la véritable importance de nos vies. Dieu nous a créés avec un plan. Il nous a créés avec un dessein. Il a un projet pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous régnions avec lui. C'est cela. C'est à ce point formidable que nous soyons placés sous sa juridiction. Mais il veut tout mettre sous notre juridiction. Et pour commencer, il nous a demandé de prendre soin de sa création. La terre, les animaux. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il a un objectif encore bien plus grand. Dieu veut placer toute chose sous notre domination dans le monde qui s'en vient, dans le monde futur, le monde à venir. Il a créé les êtres humains avec ce potentiel de naître, cette possibilité de naître dans sa famille et d'hériter de toute chose. Et quand il dit de toute chose, c'est de toute chose, y compris cette terre et même l'univers tout entier. En fait, la Bible nous dit que notre héritage, notre avenir seront tellement grands qu'aujourd'hui nous ne saurions imaginer l'ampleur de toutes ces choses. Alors que devons-nous faire? La première chose qu'il nous faut faire, eh bien, c'est continuer d'apprendre. Apprendre de Dieu. Nous devons apprendre à faire les choses selon la volonté de Dieu, dans cette vie, maintenant. L'autre alternative serait extrêmement dommageable, elle consiste à n'en faire qu'à notre tête, à passer du temps finalement à ne rien faire ou à faire des choses qui sont de moindre importance, à ne pas prendre soin de nous-mêmes. Mais il nous faut décider nous-mêmes de faire ce que nous devons faire. Quelle est notre responsabilité? Faire ce que bon nous semble, c'est différent. Faire ce que bon nous semble en dépit des avertissements de Dieu, c'est une décision extrêmement lourde de conséquences. Il faut bien que nous comprenions ça. Nous en voyons aujourd'hui, d'ailleurs, le résultat malheureux. Et nous le voyons en mode accéléré maintenant, dans le monde, dans la société qui nous entoure. Le destin du citoyen du monde, en moyenne, devient de plus en plus précaire. Telle est la situation. Et la Bible prédit que les choses ne vont pas s'arranger dans la société. Loin de là, il y aura, à un moment donné, une limite, un point limite zéro, une limite de rupture, à partir de laquelle, eh bien, ce sera au moment où Dieu interviendra dans les affaires de l'humanité, où la destruction de l'humanité sera pratiquement atteinte, il y aura à ce moment-là un point limite et Dieu ne permettra pas que cette destruction totale prenne place. Nous avons, quant à nous, le choix. Nous avons le choix dès maintenant. Ce qu'il nous faut choisir, c'est le mode de vie à adopter. C'est cela qui compte. Dieu nous invite inlassablement à choisir la vie. Choisir la vie, tel qu'il le dit, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. La façon de vivre qui produit des récompenses, des bienfaits, des bénédictions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient spirituelles. À Israël, son peuple chéri, Dieu dit les choses suivantes. Dieu a choisi du milieu des nations Israël. Dieu lui lance un avertissement, assorti d'un puissant encouragement toutefois. Et Dieu a choisi Israël, en fait, non pas parce que c'était un peuple puissant, non pas parce que c'était un peuple réussi, au contraire, il n'était pas encore un peuple, il n'était qu'un ensemble de familles au service d'un autre peuple, les Égyptiens. Ils étaient en état d'esclavage, ils n'avaient plus d'espoir, ils n'avaient plus d'avenir. Eh bien, Israël était délivré par Dieu, il était choisi par Dieu pour devenir, jusqu'à même, l'exemple des nations, l'exemple même de la réussite du plan de Dieu. Et il leur dit ceci, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi, dit-il, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Donc c'est à la fois un avertissement et un encouragement. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, dit-il, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. De cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Autrement dit, si tu veux avoir une vie qui dure, une vie heureuse, fais ce que Dieu te demande. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà l'avertissement et l'encouragement que Dieu donne à Israël. Il n'y a pas de troisième voie. C'est soit la bénédiction, soit la malédiction. Il n'y a pas de voie entre les deux. La vie éternelle ou la mort éternelle. Dieu dit de choisir la vie. Il dit « Choisis la vie afin que tu vives. » Et pourquoi mourir ? Pourquoi dépérir ? L'avenir est brillant, ultimement. Au-delà des résurrections, il y a cet espoir merveilleux. Il y a cet avenir brillant. Faisons le bon choix, persévérons dans la voie droite. La vision de notre avenir, cette vision panoramique, c'est important. Nous devons voir le grand plan de Dieu. C'est important pour Dieu, c'est important pour nous, que chacun d'entre nous, nous puissions voir ces choses. C'est pourquoi Dieu a pris soin que de l'une des parties les plus importantes de sa parole, qui s'appelle la prophétie. La prophétie est avant tout une vision de l'avenir. Et la prophétie la plus détaillée de toute la Bible, c'est très certainement celle qui est contenue dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 11. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de la prophétie de Daniel 11, c'est l'une des plus grandes prophéties de la Bible, elle est particulièrement impressionnante. Elle fait l'objet d'ailleurs d'un article complet que vous trouverez en lien en allant sur le site, sur notre site Vie, Espoir et Vérité, et vous tapez dans la petite fenêtre Daniel 11, vous trouverez à ce moment-là les différents articles qui en parlent et les explications qui conviennent pour bien comprendre la magnificence de cette prophétie et l'intérêt de ce texte. Ce qu'il y a de particulièrement frappant avec cette prophétie, c'est la multiplicité des événements historiques qui y sont décrits. Les accomplissements de ces différents détails tout au long de l'histoire, ils se sont accomplis exactement comme ils avaient été annoncés des siècles à l'avance. Nous pouvons avoir cette confiance que les autres prophéties de ce même chapitre, qui parlent, eux, par contre, de l'avenir, au temps de la fin, vont effectivement se dérouler de cette façon. Ces prophéties concernant l'avenir s'accompliront. Elles s'accompliront également, nous en avons la certitude, et les autres prophéties bibliques pour l'avenir également, exactement comme Dieu l'a ordonné. Seul Dieu peut prévoir l'avenir. Et il nous invite à comprendre les choses telles qu'elles vont se passer, selon les événements dont il a organisé l'accomplissement. Mais attention, Dieu n'est pas la cause du chaos. Ce n'est pas lui qui est la cause du chaos. Il n'est pas le responsable des malheurs de l'humanité. En revanche, quand on voit la dégringolade des choses, la descente littéralement de la civilisation, ces choses-là sont effectivement canalisées par Dieu, de sorte que les prévisions qu'il avait données à l'avance puissent se réaliser exactement telles qu'il les avait prédites. Dieu canalise la dégringolade, il n'est pas à l'origine du chaos. Dieu est à l'image, en fait, d'un père compatissant, à l'image du père du fils dépensier, le fils prodigue. Souvenez-vous, le fils voulait son indépendance, il voulait capter son héritage, le dépenser et n'en faire qu'à sa tête. Et il tombe dans la misère. Au final, après l'avoir entièrement dépensé, il tombe dans la décrépitude. Mais lorsqu'il revient, tout penaud, son père est extrêmement miséricordieux. Il attendait son retour et il savait que son fils reviendrait. Mais il a dû souffrir de le voir dans la misère et son fils est revenu à sa grande honte. Mais finalement, il a été reçu avec amour par son père. Et là, on voit la grandeur de Dieu. C'est une image magnifique. Dieu canalise les événements terribles qui vont arriver à l'humanité. Premièrement, pour bien montrer que lui est Dieu, qu'il est le seul, qu'il est le maître de l'histoire et qu'il est le maître de la destinée du monde. C'est la première chose que Dieu veut montrer. Et puis, Dieu veille sur son honneur, il veille sur sa gloire, de sorte qu'il fermera la bouche de tous ses détracteurs, de tous les discuteurs de ce siècle qui remettent de façon absolument incroyable son existence en question. De quel droit ? Sans avoir lu sa parole, sans avoir étudié, sans avoir fait preuve de cette bonne volonté que Dieu demande. Dieu canalise en effet les événements prophétiques dans la direction ultime. Un événement historique absolument extraordinaire, unique dans toute l'histoire du monde, le rétablissement du royaume de Dieu sur terre. Paisible, fraternel, familial, prospère, sous l'autorité de son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu a effectivement révélé à l'ancien roi Nebuchadnezzar ce qui allait se passer dans l'avenir. Il l'a fait par l'intermédiaire du prophète Daniel, tout d'abord par un rêve que Daniel a pu expliquer au roi. Et Daniel dit dans au deuxième chapitre de son livre, au verset 44, Daniel 2, 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Donc Daniel explique un petit peu la succession, en quelque sorte, il explique la succession des empires qui viendront après le règne de Nabucodonosor. Puis il dit, voilà, un royaume viendra, un autre royaume qui, lui, ne sera jamais détruit. Autrement dit, tous ces empires ont vécu, ils ont été détruits, mais le royaume qui s'en vient dans le monde à venir, celui-là, subsistera éternellement. Et il dit, il ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il ne sera subjugué par personne. Au contraire, il brisera, il détruira tous ces royaumes-là, ces royaumes du passé, ces royaumes d'injustice, ces royaumes d'oppression, et pour faire place à ce royaume merveilleux de justice qui subsistera éternellement. Donc c'est un événement encore futur qui prévoit une époque à laquelle il n'y aura plus de guerre, dans laquelle les maladies disparaîtront. Les gens vivront enfin en paix, ils vivront dans l'abondance physique, dans l'abondance spirituelle, dans la sécurité. Alors, je m'adresse à vous, bien sûr, qui avez certainement décidé de faire le bon choix, auquel Dieu nous invite tous, et beaucoup d'ailleurs parmi vous le font depuis bien des années. Comment nous assurer que nous servons Dieu de la bonne façon? Comment être sûr que nous faisons ce que nous devons faire, que nous répondons de notre mieux pour faire sa volonté? Nous avons des ressources corporelles qui nous permettent de voir, d'entendre, de toucher, de parler, de faire beaucoup de choses, d'agir. À ce sujet, l'apôtre Paul dit justement aux Romains, chapitre 12, verset 1, Romains, chapitre 12, verset 1, il nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Autrement dit, de faire les choses que nous devons faire pour plaire à Dieu. Nos pensées, nos actions sont interdépendantes. Nous pensons un certain nombre de choses et ensuite nous agissons. Eh bien, nos yeux, nos oreilles reçoivent beaucoup d'informations, nous voyons, nous entendons, et en vertu desquelles, eh bien, nous prenons des décisions. C'est le processus. Notre esprit humain produit une réaction et pardon, nos émotions dans notre cœur y participent aussi. Qu'allons-nous faire? Notre raisonnement? Sur quoi basons-nous notre raisonnement? Qu'allons-nous faire? Et enfin, effectivement, nous mettons ces décisions en vigueur au moyen de notre bouche qui exprime des pensées et qui exprime les résolutions de l'esprit, les résolutions du cœur. Et ensuite, nous agissons au moyen de nos mains, nos pieds, nous allons, nous venons, et nous agissons avec habileté, nous agissons avec zèle, nous agissons avec célérité. Comment utiliser ces parties de notre corps pour mieux servir Dieu? Ma demi-sœur aînée a sur son bureau une petite sculpture en laiton, un presse-papier qui représente les trois singes de la sagesse depuis très longtemps. C'est une image que vous connaissez certainement. Le premier singe se bouche les yeux, le deuxième se bouche les oreilles et le troisième met la main sur sa bouche. Et cette représentation symbolique illustre le proverbe qui dit « Ne vois pas le mal, n'entends pas le mal et ne dis pas le mal ». Elle avait, ma sœur, ce presse-papier sur son bureau constamment, d'abord pour éviter que les feuilles puissent voler sous l'effet des courants d'air, mais aussi pour mettre le presse-papier sur une pile de dossiers ou une pile de revues qu'elle devait lire. Sans doute pour lui rappeler aussi que le mal est partout et donc qu'il convient de s'en préserver afin de sauvegarder le bonheur et bien sûr la sagesse. Mais que dit la Bible? C'est cela le plus important. Que dit la Bible sur l'utilisation de la vue, sur l'utilisation des oreilles, sur de ce que nous entendons, de ce que nous voyons et l'utilisation de notre parole? Que dit la Bible à ce sujet? Il y a une vingtaine d'années, ma mère a perdu une grande partie de sa vision. Un accident est arrivé au cours duquel mon père s'est effondré juste à ses côtés, sans connaissance, et ma mère a désespérément tenté de le rattraper avant qu'il ne se blesse en heurtant le sol. Sa réaction instinctive a produit un afflux de sang vers le cerveau, brutal, inhabituel, et de façon directe ou indirecte, je ne saurais le dire, je ne suis pas médecin, mais cela a atteint ses facultés visuelles. Et donc, elle a été victime de ce qu'on appelle une DMLA, une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc, après cela, ma mère ne pouvait plus voir comme elle voyait auparavant. Elle pouvait encore voir, mais très difficilement. Tout était devenu flouté et elle ne pouvait plus voir le détail de nos visages. Et comme maman, de par sa nature, est une combattante, eh bien, elle ne s'est pas laissée abattre par ce handicap. Elle s'est organisée dans sa vie pour savoir où les objets étaient, où les allumettes sont là, pour allumer le réchaud. Et tous ces détails, sa vie a changé. Sa vie a changé. Elle a simplifié ses repas. Maintenant, elle se fait livrer à domicile, mais ses routines sont restées à peu près les mêmes. Pour chacun de nous, perdre la vue, complètement ou partiellement, ce serait certainement le plus grand handicap imaginable dans nos vies quotidiennes. Et certainement, perdre complètement la vue serait bien plus dommageable pour nous que, c'est une comparaison risquée, mais enfin, disons, perdre un membre, perdre une main, perdre une jambe, perdre la mémoire complètement et définitivement, perdre l'ouïe, la parole, ce sont des choses beaucoup plus handicapantes. La perte de la vision totale est beaucoup plus handicapante. Cela nous montre à quel point, en fait, le fait de pouvoir voir, c'est capital. C'est capital pour chacun de nous. En effet, nous recevons près de 80%, parce que la totalité de nos informations par le biais de nos yeux. On dit souvent que nos enfants ou nos petits-enfants nous sont chers, et bien plus chers que la prunelle de nos yeux. Plus chers que la prunelle de nos yeux, qui bien sûr est inestimable. Dieu nous demande de faire attention à ce que nos yeux peuvent voir, à ce que nos yeux devraient voir, et aussi à ce que nos yeux ne devraient pas regarder. En effet, parlons-en, la convoitise des yeux, c'est une réalité omniprésente dans la vie humaine, et dès le commencement. Rappelez-vous, le premier péché humain a eu lieu quand Ève a trouvé le fruit défendu, agréable à la vue. Le péché est souvent attrayant, il est tentant. La chair est faible, mais l'esprit domine les penchés naturels, les penchants naturels. L'apôtre Jean nous dit que la convoitise des yeux est l'un des plus grands dangers qui peuvent nous faire dévier du droit chemin. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de serviteurs de Dieu prenant des résolutions pour le reste de leur vie. Job déclare sans complexe qu'il a fait une alliance avec ses yeux pour ne pas regarder une femme avec convoitise. Dieu veut que nous comprenions le but pour lequel il nous a créés. Il veut que nous obtenions la certitude qu'il accomplit dans nos vies quelque chose de bien plus grand que ce que nous pourrions espérer produire. Il veut que nous fassions attention à ce que nous regardons, à ce que nous entendons et à ce que nous disons. Lorsqu'on contemple le ciel et la terre en regardant l'admirable œuvre de Dieu, nous pouvons voir la grandeur de Dieu. David, lui, se demandait pourquoi un Dieu si grand et si puissant prenait le temps de penser à nous, petits êtres humains. À quelques prophètes, à quelques apôtres, à quelques diacres, Dieu a donné le privilège inestimable de contempler une vision céleste, la vision du trône de Dieu. Cela n'a pas été donné à tout le monde. En revanche, il est vrai qu'un jour, nous espérons pouvoir avoir tous ce même privilège, cette vision. Par un songe, Dieu révéla à l'ancien roi Nabuchodonosor, et il nous le révèle à présent, que tous les royaumes de ce monde vont être remplacés par le royaume de Dieu. Comme Daniel le dit, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. La Bible nous dit de veiller. Elle nous encourage à être vigilants. Continuons d'observer le monde qui nous entoure pour discerner les signes des temps. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête des tabernacles afin que nous puissions apprendre à respecter Dieu, à conserver dans nos cœurs cette vision inestimable du royaume qui s'en vient, le royaume de Dieu sur terre.